Alors bonjour à toutes et tous, évidemment, heureusement vous ne m'avez pas entendu, j'étais en train de fredonner. Aujourd'hui, avec moi dans le studio, j'ai Jamin Chtouki. Bonjour Jamin.
Bonjour, tu sais quoi, c'est maintenant que je remarque toujours la même musique d'entrée pour l'émission.
Eh ben oui.
Un peu africaine comme
c'est
ça.
C'est normal, tu c'est vas bien. Voir et puis on va non, recevoir l'auteur semaines. De cette musique.
Il c'est est mon temps. Côté belge, je m'en rends compte.
Mais autant que jamais mon gars.
Bonjour à tout le monde.
Alors tu vas nous faire ta chronique sur le courrier des auditeurs.
Exactement.
Alors déjà, comme d'habitude, chaque fois que Jamin est là, je prends la peine de m'en excuser d'avance. Hein, si quelque chose vous froisse les oreilles, c'est pas ma faute, je suis pas au courant avant qu'il rentre.
Non, elle va Après... être cool aujourd'hui, c'est bon.
Après, en deuxième demi-heure, eh bien, on va discuter avec Jimmy Vigneux qui va nous parler de l'événement 24 heures de nettoyage. Vraiment très intéressant, donc on part avec lui. Restez avec nous. D'abord, on commence avec Jamin et on part en musique avec les fils de Tépu qui nous chantent Clémentine.
J'ai chanté à Soweto devant une dizaine de gogos. J'ai chanté à Tombouctou pour une tribu de Zoulous. J'ai chanté à Sumatra allongé sur un matelas. J'ai chanté dans ma cuisine. J'ai chanté les clémentines, le raisin, le raisin et la voisine. J'ai chanté au fond de la piscine, sans chemise, sans pantalon. J'ai chanté au plateau d'Albion, pour les plouks et les troufions. Mais qu'est-ce tu bois, doudou, dis donc, un zeste de citron. Y'a du whisky dans la boîte à gants, au cimetière des éléphants. J'ai chanté dans ma cuisine, j'ai chanté les clémentines, et j'ai crié la voisine. J'ai chanté que je t'aime dans les plaines de l'Ukraine. J'ai chanté à Copacabana pour une super nana. Mais j'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Et je chante dans la cuisine pour ma mère et ses copines. Les clémentines, les mandarines et la voisine. J'ai chanté dans ma cuisine.
Sur cette chanson, Jamin, je pense que le texte aurait pu être de toi.
Ça fait plaisir. Hein.
Alors, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ?
Alors, c'est pas moi, mais les auditeurs...
Ah oui, alors, qui t'a appelé et comment et pourquoi ?
Alors, je suis donc toujours très heureux d'être avec vous, les auditeurs, Arlette et le technicien.
Jean-Sébastien.
Ne m'oublions pas.
Voilà, Jean, toujours présent. Et donc, c'est toujours les auditeurs qui m'envoient des courriers. Alors, aujourd'hui, juste un petit préambule. Eh bien, je suis toujours heureux que nous ayons que deux auditeurs. Mais ils vont bientôt se multiplier et augmenter notre audience. Enfin. À chaque semaine, je la ferai celle-là, ça va être un running gag, comme on dit. Et donc aujourd'hui, courrier de mademoiselle Huguette de Petite-sur-Beauce, qu'on surnommera la Petite Huguette. Voici ce qu'elle nous écrit. Bonjour, monsieur Jamin. Ça, c'est moi, hein. Vu votre incroyable intelligence...
c'est pas une cousine à toi, ça?
Si, c'est possible. Hein. Et votre grande expérience...
ça, oui.
Si, toujours ça, possible, ça vu mon grand âge de 25 ans, sans les taxes.
Oui. Voilà.
Je viens vous demander conseil. Je vais bientôt partir en vacances. Il y en a qui ont de la chance. Moi, je peux pas, du moins pas avec le salaire qu'on me paye pour mes chroniques. Donc, je vais partir en vacances, me dit-elle, et je suis addict à Internet. J'ai peur d'exploser mon forfait de cellulaire et je ne sais pas comment faire si je n'ai pas de Wi-Fi. Quels sont vos conseils? Eh bien, la petite Huguette, tu as de la chance, car il m'est arrivé une mésaventure dernièrement qui illustre ton courrier et je vais vous la raconter. J'avais, avec ma blonde, réservé une auberge en campagne afin de nous ressourcer et sortir de la ville après ces mois de confinement. Déjà, le GPS, qui n'avait plus fonctionné depuis des mois, a eu du mal à trouver l'endroit, à moins que ce soit parce qu'il était complètement perdu. Hein. En Beauce, la petite Huguette. Et au moment de prendre possession du logement, qui était superbe, hein, soit dit en passant, au calme, et très calme, nous demandons tout naturellement d'avoir les codes du Wi-Fi. Et là, malheur, le propriétaire nous informe qu'il n'y en a pas. Et oui, nous sommes en campagne pour nous déconnecter, donc on n'a pas besoin d'Internet. À ce moment-là, ma blonde commence à avoir des sueurs froides. Je lis la panique dans ses yeux et elle tombe presque dans les pommes. Moi, je reste de marbre. Ou alors j'étais tétanisé d'horreur à l'annonce de cette nouvelle catastrophique. Et comme vous, ma petite Huguette, ma blonde me fait remarquer qu'elle va exploser son forfait. On se dit qu'on n'est pas obligé de passer nos vacances devant nos téléphones ou nos ordinateurs. On peut essayer de communiquer d'une autre manière. On a cherché avant de trouver la réponse à cette question. Nous parler ! Mais de quoi ? Bref. Là, on remarque qu'il n'y avait pas de 4G. Bon, la 5G, on n'en parle même pas. Et on avait énormément de mal à avoir juste une barre. Le dieu Bell nous avait abandonné lâchement. Je rassure ma blonde en lui disant « C'est pas grave, chérie, on va regarder des films tranquillement sur Netflix. » Netflix ? Mais il n'y a pas d'Internet. Disney Plus, alors. Ah, parce qu'il faut aussi Internet pour Disney Plus. Bon, je dis, c'est pas grave, on va passer la fin de semaine à bouquiner, à lire. Et ma blonde se met à commander un livre et une BD sur Amazon. Mais Amazon, c'est Internet aussi. Je commence à paniquer aussi, à sentir le week-end de marde qu'on va passer. Donc, pour nous aider à réfléchir et nous calmer, je décide de manger quelque chose. On se calme, dis-je. On va trouver une solution. Je regarde mon cellulaire et je me dis... Comment on fait pour manger sans Internet? On peut pas commander? Là, ma blonde panique. Mais pourquoi t'as choisi cet endroit de marde? On va mourir de faim à cause de tes conneries. Bon, je vais aller prendre une douche pour me calmer. Une douche sans Internet? Mais comment tu vas faire? Je lui dis. Bon, on se calme, on se pose, on réfléchit. Comment ils faisaient nos parents avant, hein? Comment ils faisaient? Ils faisaient des pièges. C'est ça, je vais aller mettre des pièges dehors. Comme ça, on aura du gibier pour ce soir. Et là, ma blonde me dit « Dehors ? Mais t'es fou ! T'as même pas Google Maps ! Comment tu fais si tu te blesses ou si tu meurs ? Je peux pas appeler Clic Santé, ni de médecin, on va mourir ici !» Et elle se met à brailler et part dans l'autre pièce. Et moi, je cherchais désespérément une barre de connexion avec mon cellulaire. Mais rien, nothing, le néant. Ma blonde revient en disant « C'est bon, j'ai trouvé du riz, on va pouvoir le préparer pour ce soir. » Mais comment on va faire, je lui dis. On peut pas voir les recettes de Ricardo. Alors on a essayé de manger le riz cru. C'est pas terrible, hein. Ça coince dans les dents, c'est un peu croquant. Hein. Là, ma blonde est partie chercher du bois dehors pour faire du feu. Alors je la surveillais pour ne pas la perdre au cas où. Et là, je me suis dit, en mon fort intérieur, mais à voix haute, c'est peut-être ça le monde d'après. Une reconnexion avec les vraies choses. Comme si survivre nous apprenait à mieux vivre. Et à ce moment-là, comme vous, devant vos yeux ébahis, je me trouve brillant. C'est tellement beau et poétique ce que je viens de dire. Il faut absolument que je le mette sur Facebook.
Mais j'ai pas de raison.
Là, ma blonde revient avec du bois et elle me demande si je sais faire un feu. Je suis belge. Il pleut tout le temps en Belgique. Vous avez vu les inondations qu'il y a en ce moment? C'est pas une légende, on peut pas faire de feu en Belgique. Ben, il faudrait un tutoriel internet pour y arriver.
Impossible, y a pas d'internet.
Donc après être rentré sain et sauf chez nous, on a décidé de faire un livre intitulé « Deux jours en enfer ». Pour préparer les gens à ce genre de catastrophe, on est resté 2 jours et demi sans internet. Dans ce genre de situation, on compte les heures, les minutes, les secondes. On voit notre vie défiler devant nous. Ça peut paraître incroyable. On n'avait pas de 3G ni de 2G. On a même pensé qu'on était presque mort. Bon, on aurait pu essayer de s'enfuir, me diriez-vous. Mais sans Waze, impossible. Internet régit notre vie. Il est devenu indispensable. Et je terminerai en disant ceci. À chaque écran qui s'allume, c'est un esprit qui s'éteint.
Oh. Musique. Eh bien voilà, donc c'était Mademoiselle Philippe qui nous chantait rien. Alors sans
Mademoiselle
le savoir,
Philippe.
Mademoiselle Philippe, oui, ça correspondait vraiment à ce que tu nous as raconté pendant cette chronique, qui nous a beaucoup fait rire. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait rire, Jean-Sébastien aussi, je pense. Et je la trouve excellente. Et en même temps, elle me fait peur.
Bah oui, parce que c'est un rire un peu jaune, sarcastique, se dire, mais c'est tellement vrai.
Et oui.
C'est tourné de manière ubuesque. J'ai tiré ça sur la... jusqu'au maximum de l'élastique. Comme je disais, ça m'est venu parce que ma propre blonde est de plus en plus accro à son téléphone. J'expliquais qu'on faisait du magasinage hier dans un magasin de meubles. Et elle était tout le temps sur son smartphone pour comparer, regarder. Ah ben, il n'y a plus. Et je disais, mais regarde les trucs autour de toi. T'as des décorateurs qui se sont cassés la tête à faire des belles choses, des trucs. Vois les produits. Et puis en bas, ils ont un ordinateur avec tous les stocks et ce qu'il y a dans. On regardera en bas, t'as. Et du coup, ça m'a fait partir dans ce délire.
C'est excellent. Ça vient d'où? Ça vient du fait qu'on est partisans du moindre effort.
Et que, comme tu disais, c'est fou, on n'arrive pas à s'en passer. Non, c'est pas vrai. On veut pas s'en passer.
Ah,
on devient dépendant. C'est comme moi, des gens, avec, bah, ça amène à plein de trucs, c'est l'instantanéité des choses. On veut avoir tellement, on a tellement d'infos tout de suite qu'on veut tout. Moi, j'ai des gens qui essayent de me contacter, tout ça, puis je réponds pas parce que je suis occupé, tu vois, à la radio. Et puis, pourquoi tu me réponds pas? Oh, mais je suis peut-être occupé à autre chose, gars.
Oui.
Ou la nuit, moi je dors, mon téléphone il est coupé. Il n'est pas dans ma chambre, il reste en bas dans le salon. Je scinde ma vie pour ne pas devenir dépendant. C'est un outil de travail.
Ça c'est bien.
C'est pas un mode de vie.
Oui.
La vie, c'est nous, on se jase, on se regarde dans les yeux, on part en week-end. Enfin, on peut se passer de tous ces moyens technologiques. Mais parce que nous, dans notre jeunesse, comment on faisait? Il n'y avait pas de smartphone.
Non.
Hein? Et non, il n'y avait pas de smartphone, mais en même temps. Tu vois, pourtant je l'ai vécu de ne pas avoir le téléphone comme on l'a aujourd'hui. Eh bien, quand même, il m'est arrivé une fois d'oublier mon téléphone à la radio. Et j'ai d'abord commencé à être en panique. J'ai fait, comment je vais faire pour joindre les gens?
T'as survécu?
C'est ça.
Et après, j'ai dit, on respire. Il n'y a rien de grave à ça.
T'attends demain et puis tu te dis à ce moment-là, bah, je vais déconnecter pendant 10 heures.
Il a fallu que je prenne un petit moment, c'est quand même complètement dingue, parce que le simple fait d'avoir oublié mon téléphone, je me suis dit là, je ne vais pas pouvoir faire ça. Non, mais je peux faire un tas d'autres choses.
Exactement.
Mais sauf que j'ai pris un moment de... Arrête, parce que j'étais partie en vrille.
La chronique de ta première auditrice où on se disait le stress,
oui.
Ça en fait partie,
oui,
c'est ce genre de choses.
Ouais.
Alors non, mais moi mes enfants, je leur prive de téléphone, j'ai une application qui me permet de leur couper Internet et le truc pour qu'ils puissent faire autre chose.
Oui.
Et quand on était jeunes, les copains ils venaient te chercher pour aller faire du vélo. Vous c'était du hockey, chez nous c'était du soccer. Là, t'avais la télévision, t'avais deux chaînes avec le même programme. T'appelais ton gars, ça répondait pas. À un moment donné, dans les années 90, on a eu des répondeurs. Mais quand t'étais pas là, il fallait que tu rentres à la maison pour écouter ton répondeur. Le nombre de fois où je me suis pointé chez mes amis, ils étaient pas là. Ah ben, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Voilà, et on est toujours vivant quand même. Hein. Voilà, les bibliothèques. On allait, on faisait des livres.
Oui.
Au jour d'aujourd'hui, Wikipédia, tu as ton smartphone. C'est ça, il faut retrouver certaines valeurs. Et donc, ça m'a fait délirer dans ce truc-là.
Tu vois bien, parce qu'on en arrive, comme tu l'avais fait l'autre fois, à faire qui était passé aussi sur Internet, cette blague de trouver une bibliothécaire qui explique à un gamin, bah, tu vois, c'est comme une tablette, mais on tourne les pages. Oh, miracle!
C'est ça, pas besoin de la recharger.
Oui, pas besoin de la recharger et tout. C'est absolument génial. Mais j'imagine le fait même de se retrouver en campagne et puis de ne pas avoir ni le téléphone, ni la tablette, ni rien, doit laisser un moment de panique avant que le cerveau comprenne que on peut faire un tas d'autres choses.
Quand tu vas en campagne, c'est pas pour utiliser ta tablette, ton ordinateur. Reste chez toi, reste chez vous. Si tu vas, c'est pour... Voilà, ce week-end, on va, j'ai un show à Saint-Côme qui est un ranch, j'emmène toute ma petite famille pour se retrouver en 3 jours. Je vais pour voir la nature.
Oui, c'est ça.
Je
ne
vais pas pour aller m'enfermer, je le fais déjà toute la semaine. Il y a aussi une préparation psychologique qu'on ne fait pas. Ce n'est pas normal de se dire ce que tu viens de dire. Tu arrives et puis tu dois te poser pour te dire « Ah, je n'ai pas de... » Fais-le avant de partir ou pars pas.
Oui.
Parce que déjà, tu ne pars pas dans la bonne attitude.
Mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas cette... sans parler de nous ici, je veux dire en général, on n'a pas cette réflexion avant. C'est comme si on a tellement l'habitude d'être servi par tout ça que on l'emmène avec nous comme on emmène, comme nous les filles, on emmène notre sac à main, quoi.
C'est naturel. C'est... Moi, les gens qui par exemple vont nager ou ça, ils trouvent des pochettes pour mettre leur smartphone.
Oui, ah bah ça c'est incroyable.
Tu vas faire du kayak, tu vas à la plage, si ça s'aime pas la chaleur, ce truc-là. Tu vas pour te détendre. Qu'est-ce que t'as ? Prends un bon bouquin, prends une revue. Prendre des lunettes de soleil pour dormir et bronzer. J'ai dit, mais pourquoi tu prends ton appareil? Et comment pas?
Il va te dire, bah, c'est pour faire des photos, c'est pour...
Mais à la plage, tu le laisses dans ta voiture, puis tu viens, tu vas dans la rue, puis tu le remets dans ta voiture. Je dis, mais quand tu vas aller nager, tu vas faire des photos des algues? Des poissons qui forniquent? Ah, c'est super.
C'est cette manie qu'on a justement de vouloir tout filmer ou tout prendre en photo. Le temps qu'on passe à... Bon, ça peut être agréable de prendre des photos, soit de prendre des belles photos ou encore de prendre des photos souvenirs, mais de passer son temps à trouver le bon angle, la bonne photo. Tout le temps qu'on gaspille, c'est du temps qu'on n'en profite pas. Donc moi, il y a quelques années, je me suis dit non, aujourd'hui, je vais me faire des clichés dans ma tête. Je vais prendre le temps de bien absorber. Je vais prendre une photo dans ma tête pour pouvoir vivre le moment. Parce que sinon, tu prends ton appareil, tu arrives, tu prends ça, clic, j'ai pris la photo. La photo est prise, tu peux continuer et tu n'as pas profité du moment.
Exactement. C'est comme je faisais une autre chronique où je disais, en fait, c'est nos appareils photos qui sont en vacances. C'est pas nous. Ou tu sais, où tu vas manger, tu fais une photo, tu la mets sur Facebook, et ben le réseau, ton appareil, tes réseaux sociaux ont mangé avant toi.
Ben oui.
Et c'était ça. Et tu sais, on se moquait
moi,
des.
Moi, je l'ai fait ça dans des restaurants, des fois, de prendre des plats super beaux, puis de les prendre en photo.
Et toi, t'as pas en mangé, tu vas manger froid. T'sais. Et c'est comme les Asiatiques, c'était surtout les quarts de Japonais, tu sais, qui venaient, qui étaient toujours
oui,
sur
qui
des.
Clic,
et tu,
clac,
en fait,
oui,
tu voyais
clic,
pas.
Clic, 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 clic.
Et ben, on se moquait d'eux, mais c'est ce qu'on est quasiment devenu. Et tu as raison de dire ça.
On s'en rend pas compte.
Je suis allé visiter le Louvre, et dans la pièce où il y a la Joconde, je trouve à quel point c'est étrange. Bon, peut-être pas en 2021 avec la nouvelle réalité, mais quand je suis allé il y a plusieurs années, il y avait des énormes et des magnifiques peintures dans cette pièce-là. Mais les gens sont tous autour de la Joconde. Il y a une file d'une bonne... On doit être une cinquantaine de personnes. C'est pas une file, là. C'est un troupeau de gens qui sont un par-dessus l'autre. Et tout ce qu'on voit, c'est des gens qui font clic, 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 clic. La photo ne sera pas bonne. Ça sera pas une belle photo de la Joconde. Les gens vont là, prennent une photo de la Joconde, ressortent de la pièce et ne regardent pas les 9 autres tableaux qui sont là. Je regardais ça et j'étais sidéré et je riais et je regardais un garde de sécurité qui lui aussi riait de la même chose que moi en même temps. C'est... On est pathétique des fois, les humains.
Ah oui, oui, oui.
Ça réfléchit pas. Et c'est là où, je dis, pour en revenir, on profite plus des choses. Il a raison, tu vas en vacances, tu regardes, puis tu vois quelque chose de beau, tu dis, ben ça, je l'ai mémorisé dans ma tête, et puis je vais en garder une image pour le souvenir à long terme, le partager, les enfants, etc. Mais vois d'abord les choses, et puis après, tu peux les filmer.
Profite, quoi. Profites-en bien.
Il a raison.
Alors, on va faire une petite pause musicale.
Mais t'as vu, on a parlé de choses intelligentes après tout
mais
ça.
Mais toujours avec toi.
On est devenu chiant, là.
Pas du tout. La chanson qui va suivre, c'est Jean-Sébastien qui va l'annoncer, parce qu'il a fait exprès de mettre un titre extrêmement compliqué. Il m'a dit « Ah non, je ne te mets pas d'anglais aujourd'hui. » Non, mais il a été mettre une chanson en allemand. Donc, c'est de l'allemand, c'est ça?
C'est de l'allemand. Mais là, depuis que tu es rendu, que tu dis le mot « Schadenfreude » de façon magnifique.
J'ai répété longtemps. Alors là, je ne pourrais pas faire un direct.
Alors, on va écouter le duo « Zwei Romwohnung » avec la pièce « Melancholisch schön » ou si on francise, on francise le tout, « Appartement deux pièces » avec « Mélodie belle mélancolie, oui.
Oh. Allez, on y va.
Da war mein
Bon, bah, après cette belle discussion intense, hein, où j'espère que vous avez pris des notes, vous toutes et vous tous, enfin les deux,
sur vos téléphones.
Les deux qui nous écoutent. Je te remercie, ça fait très très plaisir. Bon, enfin, en tout cas, Germain a enfin fini sa demi-heure, voilà, donc c'est très bien. Et maintenant, on va recevoir Jimmy Vigneux qui va nous parler de l'événement 24 heures de nettoyage. Là, va falloir remonter ses manches, se préparer à bosser.
Comment on fait quand on a des manches courtes?
Donc on sort notre aspirateur, Arlette?
Il n'y a pas de réponse à ça. Oui, on sort notre aspirateur. Non, mais il y a tellement de choses qui sont déversées dans l'eau. Franchement, ce n'est pas un dépotoir, quoi. Ça fait, ça...
Bah, va dire ça aux gens. Ou tu sais, quand tu as du camping et puis qu'ils laissent tout alors qu'il y a la poubelle juste à côté.
Eh ben, ça m'énerve.
Ou voilà. Le nombre de choses que tu vois que les gens jettent par leur fenêtre en voiture.
Et tristement, l'eau n'est peut-être pas un dépotoir, mais c'est quand même une façon que certaines villes ou certains pays ont de se débarrasser de leurs ordures avec les containers. La quantité de... Je ne sais pas s'ils font encore ça à New York, mais la quantité de fois qu'on voit dans les films ou dans les dessins animés, le bateau poubelle qui s'en va porter ses choses au large, là, c'est...
On s'en parle dans un instant.
Et les faramineux. Avec votre animatrice, Arlette Farah.
Vous avez... Et j'adore la voix qu'il prend, parce que la voix que vous entendez, c'est Jean-Sébastien Laliberté, bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Et j'adore la voix qu'il prend, ça fait très classieux, tu sais, ça fait très... Voilà, on annonce.
Oui, j'ai ma voix normale que je prends quand je n'y pense pas. Et j'ai ma voix de présentateur pour annoncer les choses qui s'en viennent.
Voilà, on déroule le tapis rouge pour Arlette. Son festival radiophonique.
Oui, en fait, c'est un festival, oui, dans lequel, d'ailleurs, je le dis en onde, comme je l'ai dit hors d'onde, cette émission n'aurait pas lieu d'être aussi intéressante et amusante si vous tous, vous n'étiez pas là. Voilà.
Je pensais, moi, jamais, tantôt, dans ta chronique, quand tu disais qu'avec les téléphones, dans le temps, on ne pouvait pas savoir. Donc, des fois, on allait voir chez les gens s'ils étaient là. Et moi, je me souviens, à mon adolescence, avoir eu la technologie, possiblement que mon histoire se serait déroulée différemment. Mais j'appelle un ami qui a tendance à ne jamais répondre, même quand il est là. Donc, j'avais pris l'habitude de, je vais aller prendre une chance. On n'est pas à l'école, il doit être chez lui parce qu'il sortait très peu. Et puis, je jouais de la musique, il jouait de la musique. Moi, je jouais de la batterie, je jouais de la guitare. Alors, je pars de chez moi, je remplis mon sac à dos. J'ai ma caisse claire dans mon sac à dos. J'ai mon sac bandoulière avec mes cymbales. J'ai un pied de cymbales qui est accroché là, au côté de mon sac à dos. Et mine de rien, je me dis, ça fait 2 ans que je n'ai pas sorti mes rollerblades. C'est le grand jour, alors je mets mes patins à roues alignées avec mon chargement qui n'est tellement pas super. Je fais 2 coins de rue, évidemment, je tombe une première fois, je tombe directement sur mes poignets. Les véhicules arrêtent parce qu'ils m'ont vu me planter. Je me relève tout orgueilleux parce qu'on est très orgueilleux quand on est jeune. Je continue et je tombe une 2e fois juste à côté d'une école et... évidemment, c'était quand les jeunes sortaient ou rentraient de l'école, donc j'ai un grand public pour me voir tomber. Je tombe sur un autre ami qui passait par là à ce moment-là et qui vient m'aider à détacher mes rollerblades parce que j'avais finalement le poignet cassé. Je vous conterai pas la version de l'histoire de l'hôpital parce que ça aussi, ça serait une chronique en soi. Et après tout cela, après avoir eu mes chaussures, être allé à l'hôpital et avoir eu mon plâtre, j'ai appris que mon ami chez qui je m'en allais n'était même pas là. Donc, avoir eu un téléphone intelligent puis avoir envoyé un texto, peut-être qu'il m'aurait dit « Non, ne viens pas, je ne suis pas là » et j'aurais pu passer un été différent, mais bon.
C'est vrai que on peut pas non plus tout jeter, hein, le bébé avec l'eau du bain. Moi, je me rappelle quand je travaillais, que j'étais sur la route et que j'avais des clients à aller voir, quand je travaillais en France, j'étais bien contente au début quand il y a eu le téléphone cellulaire parce que je pouvais les appeler pour leur dire « je suis en retard, je vais arriver très bientôt ». Donc, tout l'intérêt de ça. Mais ce qu'on en fait aujourd'hui, mais c'est comme tout, remarque, hein, c'est pour tout la même chose. C'est-à-dire, quand on va dans l'excès, on n'en sort pas, alors que quand on le prend dans ce qu'il peut donner, oui, il y a des choses intéressantes. Oui, tu
mais
peux
ça n'amène pas des histoires, tu vois, des histoires qu'il a racontées, Jean-Sébastien a raconté, c'est drôle, entre guillemets, et puis ça fait des souvenirs. Bien
à
sûr,
posteriori, c'est drôle.
Voilà, bien sûr, sur le moment, son poignet, tout ça. Mais
quand il aura mal au poignet, en vieillissant,
son copain lui aurait répondu, non, je suis pas là, et il serait resté à s'ennuyer chez lui.
Oui, là, il s'est pas ennuyé.
Si on fait la courbe, quoi. Là, il est sorti, il a fait du sport, il a fait... Voilà.
Merci pour cette sagesse, jamais.
Surtout, il a donné du spectacle à des enfants qui sortaient de l'école. Ça, c'est sympa.
Si on avait eu les téléphones intelligents, combien
sur YouTube
est-ce que j'aurais eu sur YouTube juste... J'aurais été une vedette.
Il t'aurait
malgré
pris en photo.
Toi.
Probablement.
Il t'aurait pris en photo et là, ça aurait été le ridicule à supporter. Voilà.
Oui, oui. Non, ma réputation, mon orgueil, mon ego en aurait pris un coup encore plus gros.
Moi, ce à quoi je pense après ton histoire, c'est que adieu la batterie pendant que ton poignet était cassé.
Ben pendant cet été-là, oui. Et ah puis,
j'ai encore les jambes et l'autre poignet. Hein.
Ah oui, tu joues de la batterie avec.
C'est les quatre membres normalement.
Oui, mais pour tenir les baguettes. Pas avec les doigts de pied quand même.
Mais non, mais c'est son poignet, il y en a un, mais son autre poignet, ça m'a va bien, et ses jambes aussi, donc il peut s'exercer. Avec
je vais essayer
autres.
De rentrer une baguette dans mon plâtre et de frapper avec. C'était pas très, très concluant. Mais non, ça a été rocambolesque à l'hôpital aussi, et puis je suis parti. Ils m'ont donné mon congé à l'hôpital, et je suis parti, puis ils m'ont dit vous reviendrez passer un examen dans une semaine pour voir comment c'est. Donc je pars. Moi, je me dis bon, mais finalement, j'ai juste le poignet foulé ou je ne sais pas trop. J'avais une entrevue pour un emploi de comédien d'été, cette là. Non, c'est juste foulé, ça devrait passer assez rapidement. Je retourne à l'hôpital après, puis ils me disent ah, c'est vous qui êtes parti avant qu'il aille son plâtre. Et là, après ça, j'ai eu un plâtre. Si j'avais eu un plâtre, j'aurais pas eu de travail d'été cette année-là. Mais c'était... Non, sérieusement, ça a été une semaine assez farfelue pour moi.
Rocambolesque, oui, le même mot m'est venu aussi.
Et puis aussi, comment on faisait pour draguer à l'époque? Au jour d'aujourd'hui, ils sont tous sur le téléphone, les applications rapides.
Ah ben, fallait qu'on se voit.
Ah voilà, et puis, comme tu disais, tu avais un rendez-vous, puis tu te faisais beau, puis t'arrivais, puis le fameux... lapin qui a été posé, hein. Mm-hmm. Au jour d'aujourd'hui, ouais, non, hop, on voit le texto. C'est... Non, je trouve qu'on perd.
Ah, puis là, les gens qui sont assez crétins pour rompre par téléphone, là, ils n'auraient pas pu le faire. Tu étais obligé de prendre tes responsabilités, de dire c'est fini.
Comme je dis toujours, je suis un peu old school. C'est pas que c'était mieux avant, c'était différent. Et ouais. On avait une vie. Je trouvais qu'elle était un petit peu plus riche parce qu'elle était plus réelle et moins virtuelle.
On va partir avec Edith Préto qui nous chante Ego. Il y en a pas mal d'ego dans des situations comme ça.
Et comment on fait, comment on dit en allemand, je sais pas.
On le dit pas.
Si ça continue, je me taillerai en ocre. Je mettrai à ma vue que des gens qui m'adorent, que des gens qui me dévorent, que des gens qui m'évoquent un beau moi sans effort. Puis j'inscrirai les rues, mon nom en lettres d'or, pour oublier les fûts d'un temps où le dehors, un peu moins m'as-tu vu, n'était qu'un wesh alors, n'était qu'un ouais tu sors, n'était qu'un son de décor. Bétonné d'ordures, moi je rêvais d'ailleurs, je rêvais d'être transeur sur des scènes si pures, ces scènes lueur azur, pour crier mes peines justes, pour créer mes rênes sûres et puis parfaire mon allure. J'ai donc conçu un plus grand pour oublier le dur, plus solide que le fainé, qui est en moi et qui lutte, qui est en moi et qui sûr de soi, bien plus de cran que moi devient un géant tout froid. Je viendrai fou de moi. Qu'on m'acclame, qu'on me suce, qu'on l'avale tout entière, qu'on me dise tout au plus que je ne suis pas qu'un rêve, que je suis encore plus. Je deviendrai accro de celui qui donne l'air, que tout est bien plus beau quand c'est pas dans ses terres, quand c'est dans les journaux, car ma vie est plus terne en dehors des réseaux. Et de mes vues j'en ferai des changements d'humeur que je compterai par peur
de redevenir inconnu, de retomber dans le plus, où je n'étais pas grand chose, où je n'étais même jamais vu. Alors je jouerai à l'être, même tout le temps balèque. Je nourrirai mon écho de cuillères de paresse, jusqu'à en perdre la peau, jusqu'à m'en perdre dedans, jusqu'à faire couler du sang sur les reflets de mon trop grand. Je te jure, je deviendrai fou de moi. Comme ça, je t'assure, je deviendrai fou de moi. Oh, fou comme ça. Car à tous les quarts d'heure, je vérifie mon contenu s'il n'a pas par malheur et un peu par folie perdu toute sa magie, perdu tout son meilleur, perdu tout ce que je suis. J'idolerai l'habit que l'on dit de lumière, car il prendra ma vie et même dans les cratères je le mettrai quand je crie pour ne jamais voir les plis, ne jamais voir mes guerres, ne jamais voir le gris à en avoir le tournis. Je t'assure, je deviendrai fou de moi. Oh, fou comme ça.
Alors maintenant, nous sommes avec Jimmy Vigneux. Bonjour Jimmy.
Bonjour.
Comment ça va alors?
Ça va très bien, merci beaucoup.
Parlons un peu de cet événement 24 heures de nettoyage. Qu'est-ce qu'on a à faire?
C'est ton
qu'est-ce
appartement
qui
va être nettoyé pendant 24
heures. Ah, on va avoir besoin de plus grand que ça. Non, ben écoutez, c'est ça, on a décidé de faire avec Gotti Kombucha, notre partenaire, un 24 heures de nettoyage pour sensibiliser les gens, encore une fois, la même chose, dans l'importance de nettoyer nos cours d'eau. Donc, on se donne le défi de le faire pendant 24 heures, jour et nuit, pour attirer l'attention là, sur l'importance de d'agir maintenant pour la protection des cours d'eau.
C'est quand même extraordinaire d'entendre quelqu'un dire l'importance d'agir pour nettoyer les... Mais si on ne les salissait pas, ce serait pas important, en fait. on prend le problème à l'envers.
Ben c'est sûr que tu sais, si on était capable de réduire à la source tous les déchets, ça serait l'idéal. On n'est pas encore rendu là. Moi, ce que j'essaie de faire dans un premier temps, c'est de justement arrêter de toujours penser que c'est la faute des autres. Hein, souvent, on va dire ah ben c'est la faute au gouvernement, c'est la faute aux grandes entreprises. Bon, toujours la faute des autres. Il faut prendre action en tant que citoyen.
Oui,
puis je pense que plus on va prendre d'action, que ce soit pour nettoyer ou que ce soit pour réduire, c'est là qu'on va créer un grand changement.
C'est tout le monde qui doit être partie prenante là-dedans.
Ben tout à fait. Hein. Le rôle des citoyens est majeur, autant pour l'action individuelle d'aller ramasser ou de réduire sa consommation de plastique, mais c'est aussi, plus il y aura de citoyens qui vont agir, ben, plus ça va inciter les entreprises et les gouvernements à changer, parce que si ça reste que c'est la masse de citoyens qui influence les grandes décisions quelque part.
Ça, donc, c'est vrai, faut le répéter, là. C'est quand même la masse de citoyens qui influence. C'est,
ben,
nous
c'est nous qui
lisons
les gouvernements. Hein. Donc, si on veut des gouvernements qui sont environnementaux et que l'environnement est une cause importante, ben, il faut aussi sentir que dans la population, c'est une cause importante.
Alors, Jimmy, explique-nous, ces 24 heures, ça se passe quand? Comment on peut y participer? Qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté? Puis j'ai vu aussi qu'il allait se passer quelque chose à Montréal. Alors, ça fait plusieurs questions en une seule, mais je te laisse.
Exactement. Le 24 heures, ça se passe à Montréal. Donc, ça, c'est moi qui vais faire 24 heures de nettoyage. On va faire ça dans l'est de Montréal. Donc, il y en a qui peuvent se joindre à nous. Ça, c'est pas un problème. Et on fait aussi un nettoyage collectif à travers ce 24 heures-là. Donc, samedi le 7 août, moi, je commence à partir de 6 heures du matin. À 10 heures le matin, on fait un nettoyage collectif à la promenade Bellerive. Donc, ceux qui veulent se joindre à nous, donc, on invite les gens à venir faire un nettoyage en groupe de 10 heures à midi. Puis après ça, après midi, moi, je continue. et je me rends jusqu'à 6 heures du matin le dimanche pour retirer là, un maximum de déchets là, aux abords du fleuve Saint-Laurent là, dans l'est de l'île de Montréal.
Ouais, et il doit y en avoir un paquet, non?
Ben oui, il y en a un paquet. Je vous dirais que c'est encourageant dans un sens où il y en a de moins en moins parce que c'est des lieux où on a déjà passé, on a déjà fait des nettoyages
oui,
par
ça.
Le passé. Malheureusement, ils s'en rajoutent, donc il faut repasser. Mais les très gros déchets ont été enlevés dans les dernières années parce qu'on est déjà allé. Là, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est du plastique alimentaire, là, des verres à café, des emballages de pique-nique, de nourriture. Donc, dans l'Est, il y en a beaucoup qui se ramassent là à chaque année. Donc, on repasse et on va faire là, plusieurs lieux là, durant 24 heures.
Pourtant, c'est quand même pas peu d'avoir mis des poubelles de partout, quoi. Tu fais trois pas sur le côté, puis tu as une poubelle. C'est quand même pas difficile.
Effectivement. Il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire auprès des gens par rapport à ça. Il ne faut pas aussi négliger le fait que des fois, les poubelles sont renversées, le vent, les mouettes, ça met des déchets un peu partout.
Renversées ou pas
donc,
bien...
Ou pas bien attachées.
Oui,
bon,
oui
pas
parce
bien...
que moi, la dernière fois, que c'est-à-dire la semaine dernière, j'ai laissé la poubelle, elle était à moitié vidée et à côté, et encore à moitié remplie. Donc aussi...
Exact. Donc, des fois, c'est pas toujours la faute de gens qui prennent pas, qui font pas attention. Mais on se le cache pas, il y a encore plein de gens qui vont se faire un petit pique-nique sur le bord de l'eau. Il y a même des bières sur le bord de l'eau. Puis en partant, ils laissent tout ça là, puis ils s'en vont. Donc, on essaie hein, de sensibiliser ces gens-là et de sensibiliser les gens aussi à ne pas laisser les autres faire ça. Hein, d'intervenir, de dire aux gens, ben non, tu vas pas laisser tes canettes là. S'il vous plaît, peux-tu les ramasser?
Ça
devient très gênant. De laisser ces déchets-là quand on se fait interpeller comme ça, toujours de façon très respectueuse. Là. Le but, c'est pas de créer de la violence.
Oui.
C'est juste de ne plus accepter de voir des gens tirer des déchets par terre. Au même titre, si on n'acceptait plus que les fumeurs tirent leurs mégots de cigarettes par terre, ben, à un moment donné, les fumeurs seraient gênés de tirer leurs cigarettes par
terre.
C'est
ça. Comme on a fait avec les chiens et les crottes, de ramasser, ce serait la même chose.
Exactement. Donc, on ne devrait plus tolérer ça parce que c'est des déchets qui se ramassent au final dans les cours d'eau.
Est-ce que cette forme d'apprentissage se fait déjà dans les écoles? Par exemple, est-ce que toi, tu passes dans les écoles pour leur apprendre qu'il ne faut pas... Il y a des gestes à faire ou à ne pas faire?
Bien, je pense que moi, je passe pas dans les écoles très régulièrement là, pour faire ce type de sensibilisation-là, mais les enfants sont très sensibilisés à ça. Les enfants, dans plusieurs
plus que
écoles,
nous, oui.
Les professeurs m'en parlent, les enfants sont les premiers à nous dire « Hey, papa, il a jeté son mégot par terre, c'est pas bien pour la planète. » Donc, les enfants, là, on le voit qu'il y a vraiment une différence de génération, sont de plus en plus sensibilisés à l'environnement. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
Oui.
Donc, parce que souvent, là, justement, mes enfants particulièrement, puis j'en vois d'autres aussi, qui tirent sur la manche de leurs parents pour dire « Regarde ce que le monsieur a fait, c'est pas bien d'avoir laissé ses canettes par terre. » Donc, après ça, à nous, adultes, d'aller voir le monsieur en question pour lui dire « Monsieur, pouvez-vous ramasser, s'il vous plaît, votre canette, ça ne va pas par terre. » Je pense que ça pourrait créer un grand changement si on prenait notre bien collectif en main puis qu'on on enlevait la gêne, en fait, d'intervenir. Encore une fois, toujours dans la diplomatie, dans la non-violence, c'est ça l'important. Mais après ça créerait un changement, j'en suis certain.
De mentalité, tout à fait.
Oui, mais faut bien commencer quelque part.
J'avais juste une question, parce que monsieur me dit fait 24 heures de 6 heures du matin à 6 heures du matin le lendemain. Donc quand c'est en journée, ça va, mais quand il fait noir, comment ils font pour voir les déchets, pour voir les ramasser?
Bonne question.
On prend des lampes frontales, des lampes de poche, on se promène, on s'entend, c'est pas la façon la plus efficace de ramasser des déchets, le faire de nuit. Mais le but, c'est de le faire sous forme d'un défi. Hein, parce que c'est long, 24 heures, à ramasser des déchets sans dormir. Donc, le message qu'on veut passer, c'est qu'il faut se dépasser. Hein, il faut aller plus loin. Il faut se donner la peine pour sauver la planète. Des fois, ça peut être en ramassant des déchets. Des fois, c'est en réduisant notre consommation. Des fois, c'est en militant pour une cause. Mais il faut agir et il faut y mettre de l'énergie. Parce que je pourrais passer mon samedi à écouter des films puis à aller jouer au parc avec mes enfants. Mais je considère qu'il faut absolument se donner à 100% pour changer la dynamique actuelle. Parce que là, on parle justement là, que c'est le jour du dépassement de la planète où justement on a consommé l'entièreté des ressources pour une année. Bien, c'est pas normal que ça soit à la fin juillet que cette journée-là ait lieu. Donc, il faut agir pour changer la dynamique actuelle.
Qu'est-ce que c'est qui est fait parce que là, c'est pas la première fois qu'on parle ensemble, c'est pas la première fois que cet événement et d'autres sont faits. Est-ce qu'il y a des améliorations depuis que tu l'as entamé?
Tout à fait. Moi, je vois beaucoup d'améliorations dans plusieurs points. Premièrement, notre communauté de gens qui ramassent, qui font des nettoyages, s'agrandit à chaque mois. Des gens de partout au Québec, même ailleurs dans le monde, qui se joignent à nous pour faire des nettoyages parce qu'eux aussi veulent agir. Donc ça m'encourage énormément. Autre chose aussi que je me rends compte, qui devient un de mes problèmes et qui est un beau problème, c'est que des fois, nous, les villes nous appellent, les entreprises nous appellent pour faire des nettoyages. Et puis moi, ben, c'est mon rôle de trouver les lieux où on va aller nettoyer. Mais les lieux à nettoyer, il y en a de moins en moins, ils sont de plus en plus difficiles à trouver.
C'est une bonne chose.
exactement, c'est une super bonne chose. Donc, c'est signe que les nettoyages qu'on fait, là, on approche le 200 tonnes, ben, les 200 tonnes de déchets qu'on a retirés, ben, c'est 200 tonnes de moins dans la nature, puis on a de plus en plus de difficultés à trouver des lieux de nettoyage où il y a beaucoup de déchets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, ça ne veut pas dire que tout le monde fait attention, mais il y en a moins.
Ça veut juste dire
qu'il y a un peu plus éparpillé.
Il y a une
aussi.
Conscience qui est en train de se lever, donc c'est bien.
Ben exactement. Donc pour moi c'est une bonne nouvelle. On se cachera pas, là, la guerre n'est pas gagnée.
Oui.
Il reste encore énormément d'énergie à mettre pour changer nos modes de consommation, puis s'assurer que ça ne se retrouve pas dans la nature. Mais il y a une progression. Je le vois dans la mentalité des gens. Je le vois dans le nombre de personnes qui m'écrivent. Hey, grâce à vous, ça me donne envie d'agir. Ça me donne envie de changer. Ça veut dire qu'il y a un changement qui s'opère tranquillement. Nous, on est un petit grain de sable dans l'univers du changement. Mais partout sur la planète, il y a des organismes comme la mission Milton qui s'activent à justement mobiliser les citoyens. Et ça, c'est encourageant.
Et puis quand on est sorti, enfin en arrivant sur ce qui reste à dire là-dessus, il y aurait plein de choses encore, mais en sortant aussi des cours d'eau, simplement à la base, savoir jeter ses poubelles en ayant différencié de ce qui est carton, de ce qui est nourriture, de ce qui est plastique, et voilà. Ça.
Puis les endroits, déjà, les déchetteries, les gens peuvent aussi eux-mêmes aller déposer. Avant, c'était plus compliqué, on mettait ça dans le coin de la rue.
Des choses à faire dans la ville aussi, hein.
Ah, bien, tout à fait. Là. Puis, effectivement, la gestion de nos matières résiduelles est un sujet important. On doit bien gérer à la maison. Déjà, c'est la base.
Oui.
Bien recycler, bien composter pour en jeter le moins possible. C'est déjà un bon pas dans la bonne direction. Après ça, la suite, ça va être de réduire. De réduire notre consommation de tout ce qui est plastique à usage unique pour que, j'aimerais ça que mon panier de recyclage soit aussi vide parce que j'en ai pas consommé de plastique à recycler. Ça serait l'idéal. On n'est pas rendu là, il faut que le marché s'adapte, il faut que les épiceries s'adaptent, mais il y a de plus en plus d'épiceries zéro déchet, de boutiques zéro déchet, donc il y a façon de consommer autrement, et puis plus on va encourager ces commerces-là, ben, plus on va les encourager à ouvrir des nouvelles succursales qui vont être à Montréal, mais aussi ailleurs, partout au Québec, puis on le voit, les boutiques écologiques poussent un peu partout au Québec, donc ça aussi c'est une bonne nouvelle, il y a façon de consommer différemment.
Puis il y a des magasins qui ont plus ou moins, on va dire, mais supprimé les sacs plastiques.
Ben tout à fait, exactement. Donc, de plus en plus, puis c'est le fun, ça devient une mode d'être écologique, d'être éco-responsable, et les entreprises prennent le virage parce que ça vaut la peine, parce que leur clientèle est sensible à ça, et pour la planète, c'est bon. Donc, les grandes entreprises le font, les petites entreprises le font, il y a vraiment un grand mouvement. Il faut toujours faire attention au greenwashing. Des fois, on fait écolo, mais on fait semblant, il faut faire attention.
Oui.
Mais quand même, il y a une belle mode qui s'installe par rapport à ça.
C'est surtout une habitude de tous les jours, hein, parce que c'est bien de le faire dans un temps, par exemple comme là, participer à quelque chose pendant 24 heures, mais il faut aussi garder en tête que c'est un geste à faire tout le temps, ne serait-ce que chez soi,
d'accord.
Pour soi.
À chaque fois qu'on achète quelque chose, il faut se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est le produit le plus écologique que je peux acheter?
C'est ça.
Tu sais, quand on achète notre savon à vaisselle, il y en a du plus écologique que d'autres. C'est toujours de faire des choix comme ça. Des fois, ça coûte un petit dollar de plus, mais il faut des fois le mettre, ce petit dollar-là, parce que collectivement, ça va faire une grosse différence si tout le monde fait ses choix-là.
Et puis des fois, on peut fabriquer, et c'est drôle à faire.
Ah, mais tout à fait. Puis on se souvient, on a perdu un grand savoir de nos grands-mères qui produisaient quantité de nourriture, mais de savon, de détergent, qui étaient toutes faites avec des éléments de base qu'on trouvait dans notre cuisine. Ça s'est perdu, ça. Puis on achète tout maintenant dans une bouteille de plastique. Puis souvent, il y a des produits toxiques dans les produits qu'on achète. tandis qu'on faisait tout ça à la main à la maison.
L'habitude.
Il faut juste se libérer un petit peu de temps pour prendre le temps de le faire.
Oui, le temps, c'est ce dont on n'arrête pas de parler. Alors, merci beaucoup, Jimmy. Ça a été un plaisir de discuter ensemble. Et puis, bonne continuation, surtout. Puis j'espère qu'un jour, tu n'auras plus besoin de le faire parce que tout le monde se sera mis d'équerre pour nettoyer la planète. Voilà.
J'espère que ça viendra. Merci de m'avoir reçu.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Alors, on part en musique, un petit moment musical avant la fin de cette émission. J'ai peur parce que Jamin me regarde avec un air semi-intelligent. Je me demande ce qu'il a compris. Donc, on part avec la chanson de Richard Desjardins qui nous chante...
Nous aurons.
Nous aurons. Oh, c'est beau. C'était beau dit par toi. Allez, on y va.
Nous aurons des corbeilles pleines de roses noires pour tuer la haine des territoires coulés dans nos veines et des amours qui valent la peine. Nous aurons tout ce qui nous manque, des feux d'argent aux portes des banques, des abattoirs de millionnaires, des réservoirs d'années-lumière. Pas de lune.
Nous en ferons une.
Alors, Jamin, nous sommes à la fin de cette émission. D'abord, on va remercier Jimmy Vigneux pour son... pour d'avoir été avec nous et puis nous avoir appris tant de choses.
Le spéléologue de la poubelle, j'imagine, la nuit avec sa lampe frontale.
Mais en même temps, ça fait partie aussi de la chronique que tu nous as fait, savoir sortir, laisser son téléphone, laisser sa tablette, laisser tout ça pour pouvoir vivre autrement, nettoyer aussi pour pouvoir vivre autrement. Il y a des tas de choses à faire. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait bonnes aujourd'hui, mais qui peuvent le devenir, mais au moins on commence à poser un geste.
C'est ça,
et après le geste peut se rectifier, c'est voilà. Ça. C'est au moins commencer à faire un geste, c'est déjà ça.
Il ne faut pas sous-estimer la force de l'effet d'entraînement. Mm-hmm. On commence par le faire et les autres nous voient et s'y mettent aussi.
C'est vrai, il y a ça aussi.
C'est juste qu'on ne pourra pas revenir complètement en arrière. Il faut aussi se dire que voilà, on évolue, on avance, mais effectivement en masse.
On avance, nous dirait une belle chanson d'Alain Souchon. Merci beaucoup Jean-Sébastien Laliberté d'avoir été avec nous et d'avoir été à la technique. Merci Jamin Chtouki.
Avec plaisir.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et quant à vous, auditrices et auditeurs, enfin les deux qui m'écoutent, à demain.
C'est ça. À demain pour Arlette.